Bonjour à toutes et à tous, salut Thibaut.
Salut Guillaume.
On continue notre série des films de la seconde chance avant que les cinémas ne réouvrent en début juillet, hein, le 1er juillet en Belgique. On fera d'ailleurs une émission hein, pour le début de l'été avec les différentes sorties qui auront lieu cet été pour avoir un petit agenda de juillet-août hein, parce qu'il y a eu pas mal de changements encore dans les sorties de films. On pense notamment à Tenet qui a été reculé encore de 2 semaines, à d'autres films qui ont carrément disparu de la grille de l'été ou même à certains films qui ont été avancés. Donc ce sera l'occasion d'en reparler. Mais là aujourd'hui, on continue à aller revisiter des films plus anciens qui sont passés inaperçus pour des raisons parfois valables, parfois non valables. Et aujourd'hui, c'est le 13e Guerrier. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film? Je suis pas sûr que vous avez tous entendu parler de celui-là. C'est un film de John McTiernan, qui est le réalisateur, attention, de pas mal de très bons films, faut le dire, notamment Die Hard, hein, puis Die Hard aussi, With a Vengeance, c'est le troisième film de la saga qui se passe à New York avec les... Je sais plus s'ils sont russes, les méchants, là, dans le métro, là, avec les...
C'est avec Jeremy Irons qui faisait le méchant.
Ouais, voilà, donc c'était vraiment un tout bon film. Et c'est basé sur un bouquin de Michael Crichton. Donc Michael Crichton, c'est l'auteur qui a été le... Voilà. Donc on a tous reconnu Jurassic Park. Et c'est un auteur qui, voilà, notamment Jurassic Park, mais qui a été à la source de beaucoup de films dans les années 80-90. Énormément de films. Hein. Si vous allez voir son profil, vous allez voir, c'est assez intéressant de voir tous les films qui ont été basés sur son œuvre. Mais ici...
Il y a eu le film Westworld, d'ailleurs. Enfin, qui s'appelle Monde Ouest, hein, en version originale. Mais Westworld, avant d'être une série, c'était quand même ce film Monde Ouest de Michael Crichton, qui était, donc... je pense, déjà adapté d'un de ses trucs, mais je ne suis pas certain.
Ouais. Enfin, voilà. Donc, il y a pas mal d'adaptations. Et dans ce film-ci, le 13e guerrier, ça parle donc de guerrier, forcément, mais pas que, puisqu'il s'agit en fait d'un arabe qui s'appelle Hamed, qui est envoyé en fait dans un groupe viking, très concrètement, et une prophétie va l'obliger à devenir en quelque sorte le 13e guerrier, donc le 13e membre de ce groupe, qui doit aller porter secours dans un village où il y a régulièrement des attaques de démons, hein, mi-humains, mi-animaux, c'est un peu un mystère. Et forcément, cet arabe qui est un peu en terre inconnue, avec les vikings, va découvrir la culture viking, le Valhalla, etc., avec forcément quelques bonnes scènes de baston. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce.
Il avait la chance d'être aimé par la plus belle femme du royaume, et la malchance qu'elle soit l'épouse du roi. Alors, il fut banni pour toujours.
Que Dieu te protège !
Vous entendez ce qu'il dit ?
Désormais, cet homme de paix erre dans un pays en guerre contre un ennemi qui attaque sans prévenir et disparaît sans laisser de traces.
Ce sont des démons. Sache que 13 hommes ont été choisis pour détruire ce mal.
Et qu'est-ce que tu veux dire ?
Que le 13e homme, c'est toi.
Alors on entend tout de suite, Thibaut, à cette bande-annonce que c'est un film des années 90, hein, le petit ne fût-ce que le grain à l'image, mais ça vous l'avez pas vu, mais aussi forcément le petit ton de voix avec cette espèce de
« c'était une histoire viking ».
C'est directement, on est plongé dans un, dans un tempo assez nostalgique, hein, du cinéma de papa, entre guillemets.
C'est le moins qu'on puisse dire.
C'est moi qu'on puisse dire. Parce que oui, le 13e guerrier, on a eu cette suggestion de la part d'un de nos followers sur Twitter qui avait parlé de ce film-ci après qu'on ait vu Kingdom of Heaven. Donc il s'est dit, un film avec des épées et de la religion, peut-être qu'il y a un lien avec le 13e guerrier. Et il nous a envoyé voir ce film avec Antonio Banderas qui joue donc un arabe. On ne va pas revenir là-dessus. Cette insertion chez les vikings, un peu poussive au début, quand même, faut le dire. Hein. Je pense que les 20 premières minutes où il y a notamment un personnage qui n'arrête pas de traduire ce que disent les vikings tout le temps dans l'oreille d'Antonio Banderas, c'est très, très chiant. c'est une intro un peu poussive. Mais bon, on s'y prend au jeu. Hein. C'est un peu grossier comme film. C'est voilà, les vikings sont des vikings, ils parlent de cul et de massacre. Et notre héros va forcément prier Allah et essayer de leur faire comprendre qu'il y a autre chose que la guerre. Bref, voilà, vous avez compris un peu là où je veux en venir. Hein. C'est un film très concrètement qui tient sur un post-it. Mais ça n'empêche pas que ça reste un film tout à fait appréciable, justement parce qu'il tient sur un post-it et que c'est un beau plaisir coupable, quoi. Il y a des espèces de démons, des espèces de scènes d'attaque qui sont franchement pas des plus impressionnantes, mais je sais pas, il y a eu cet effet rétro. Je me suis dit, et on s'est dit la même chose, Thibaut, c'est tout à fait le genre de film, j'aurais aimé le découvrir quand j'avais genre 13-14 ans, parce que je suis sûr que j'aurais trouvé ça kiffant. Aujourd'hui, un petit peu moins, mais voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé du 13e guerrier ?
Effectivement, je comprends pourquoi il a eu mauvaise presse et pas énormément de succès à l'époque. Je vois bien les failles, je vois bien ce qui empêche le film d'avoir l'ampleur dont il avait l'ambition, sans doute. Faut dire que la prod a été compliquée aussi à un moment entre McTiernan et Michael Crichton, donc qui est l'auteur, comme on l'a dit, et qui était producteur du film aussi. Donc, et je sais que les premiers projets, les projets tests du film se sont pas bien passés, du coup ils ont fait des reshoots. Et ça se sent un peu dans le film. Effectivement, c'est le début est assez laborieux. Enfin bref, c'est un film un peu bancal qui, je trouve, a quand même quelque chose au fond. C'est-à-dire que visuellement, que ce soit d'un point de vue costume, décor, etc., ça a quand même de la gueule. Tu vois que les mecs ont voulu mettre des moyens pour faire quelque chose avec une certaine ampleur, un peu épique, hein, quand même, parce que tu as des... Il y a quand même des scènes de bataille un peu impressionnantes. Ça dépend. Mais il y a des scènes qui ont plus de gueule que d'autres quand même. Et qui, dans les années 90, devaient quand même faire leur petit effet, quoi. Donc, j'étais un peu, je ne vais pas dire le cul entre deux chaises. Je ne me suis pas emmerdé. Je n'ai pas trouvé ça mauvais. Loin de là. Je comprends quand même aussi pourquoi est-ce qu'il gagne en appréciation avec les années. Il reprend un peu du galon, donc voilà, je comprends bien. Et après, clairement, c'est sûr que j'aurais préféré voir ça plus jeune que maintenant. Parce que là, le découvrir maintenant, effectivement, ça fait un peu daté, mine de rien. Alors qu'on est dans les années 90, et qu'il y a des films plus vieux que ça qui passent bien mieux aujourd'hui, quand tu les vois. Mais voilà, il a son petit charme. Il a son petit charme, et c'est quand même bien que ce soit un film qui soit un peu réhabilité malgré ses défauts. Ouais. Parce que les défauts, on reste un peu vague, mais les défauts, concrètement, je pense qu'il y en a surtout dans l'écriture. Le début est un peu laborieux, et c'est vrai que le fait que les personnages ne parlent pas la même langue, qu'ils doivent tout traduire en permanence... C'est vite casse-couille. Hein.
En fait, c'est parce que c'est pas des sous-titres.
C'est une faiblesse.
C'est pas des sous-titres. C'est vraiment, il y a quelqu'un qui dit à haute voix ce que la personne vient de dire.
Et donc, c'est ça, exactement comme cohérent.
Vous voyez des documentaires à la télévision où on est en Inde quelque part, et puis il y a un gars qui parle, et puis il parle en anglais, puis tu sens que ça a été doublé sur l'anglais. C'est encore pire, quoi, tu vois. Enfin, moi, ça m'a vraiment envie de le taper, le mec. Hein.
Ici, c'est pas à ce point-là, mais c'est vrai que... Alors, tu te calmes tout de suite, hein. Taper le mec.
J'avais envie de le taper. Je te l'arrête, tais-toi. Donc voilà.
Tu parles d'Omar Sharif comme ça, toi ? Parce que c'est lui qui traduit,
non ? Mais non, mais oui, bien sûr. Mais j'avais envie de le taper parce que, en fait, j'ai fait l'erreur de le regarder en français aussi. Hein. Faut...
Ah oui.
Il faut que j'explique le contexte, bien sûr. Donc voilà. Mais c'était après. Ça rendait encore plus le film années 90. Hein. Tu vois ce que je veux dire en français comme
ça.
Ah
oui, j'imagine.
La voix off. C'était quelque chose.
Ouais. Non mais ouais, c'est clair que au niveau de l'écriture, c'est parfois un peu le fouillis. C'est-à-dire que le début, je trouve que ça va très vite d'une certaine façon. Le personnage d'Ahmed est vite envoyé en exil, en fait, très clairement. Mais toutes les explications qui précèdent, ça va assez vite, en fait. Donc, il faut vite rentrer dans le bain, parce que sinon, tu peux être, y a moyen d'être vite largué. Et puis après, je trouve que la façon, l'intégration du personnage, c'est parfois un peu laborieux et parfois un peu long. Je trouve que le film aurait gagné à être un poil plus court, alors qu'il n'est pas si long que ça.
Ouais, il dure 1h25, 30 hein, pratiquement. Je sais que sur la fiche technique entre guillemets du film, il est plus long. Mais moi, j'ai 1h30, pas plus. Donc...
Ouais, mais ça, c'est sans doute à cause du du format dans lequel tu l'as regardé. Mmh. Mais oui, le film dure environ 1h40, plus ou moins, ce qui n'est pas énorme, mais oui, je trouve qu'il y avait des petites longueurs quand même.
Parce que d'habitude, les films comme ça, un peu plus épiques, entre guillemets, où on va chez des guerriers, où il y a une quête ou tout, ça dure en général 2h, 2h20, hein, c'est la moyenne pour ce genre de film. Donc moi, j'étais assez surpris de la durée, je me suis dit, tiens, ça va aller à l'essentiel. En effet, on sent qu'au début du film, ils n'ont pas envie de passer non plus trop de temps à parler de ce qui s'est passé avant qu'il arrive chez les Vikings. Parce que finalement, on s'en fout un petit peu. Hein,
oui, complètement.
Mais ils le font quand même. Donc, ils le font à moitié. Ils le font rapidement et mal. Alors qu'ils auraient pu directement arriver chez les Vikings. C'est pas grave, quoi. Et après, il y a forcément toute l'initiation du personnage chez les Vikings est importante.
Je suis pas d'accord pour son arrivée. Je pense que c'était quand même nécessaire d'avoir de savoir d'où sort ce personnage arabe qui débarque chez les Vikings. Donc, c'est pas très long le moment où il est encore chez les Arabes et puis qui se fait envoyer en exil. Ça me dérange pas, mais c'est vrai que ça va très vite droit au but. Et puis après, voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place assez rapidement. Et c'est là que voilà, il faut suivre parce que ça peut être un peu confus. Et oui, par contre, pour l'initiation, je suis d'accord avec toi.
Ouais, l'initiation chez les Vikings avec étape 1, étape 2, étape 3, on va faire du cheval, ton cheval il est petit, enfin voilà. Les trucs classiques qu'on a dans les films, mais ça c'est pas encore trop gênant, si ce n'est que les acteurs qui jouent les Vikings sont en grosse caricature pendant en tout cas cette partie-là du film. Après, quand ça commence à devenir un peu plus baston, où il se fait intégrer dans l'équipe Viking, il y a un petit changement de mentalité, il y a un côté paternel aussi, fraternel pratiquement, qui est appréciable. Et voilà, c'est un plaisir coupable, quoi. Merde, on va pas tourner autour du pot, hein, Thibaut.
C'est vrai. C'est vrai que, en fait, c'est une force et une faiblesse. C'est ce scénario relativement simple et très classique. Parce que c'est vrai que c'est vraiment l'étranger qui, au début, est regardé de travers et puis qui s'intègre. Et puis, c'est devenu un frère d'armes. Enfin, voilà. C'est vu, revu et revu. Mais c'est un schéma qui fonctionne toujours et qui fonctionnera toujours. Voilà.
Bien sûr, mais en général, ce schéma-là est fourni avec un peu plus d'épaisseur, entre guillemets. Et ici, voilà. Le film est très fin. Hein. C'est ce qui se passe, point barre. On va nous mettre quelques éléments clichés chez les Vikings, mais il n'y a pas vraiment des scènes qui permettent de construire le voyage du personnage de manière un peu plus profonde que juste un peu superficielle ou... Enfin voilà, je trouve qu'il y a des films qui ont la même structure, mais qui créent un monde plus riche et qui du coup vendent mieux le bazar, tout simplement. Quoi. Ici, c'est plus direct. Ouais.
Mais par contre, ce serait le genre de personnage que je serais curieux de revoir dans une suite ou autre chose. Mais alors, je ne sais pas ce qui serait possible de faire, mais...
Le 14e guerrier.
Non, voilà. Non, mais justement, il ne faut pas déconner non plus.
Avec The Rock.
Mais je trouve que ce mélange de cultures est, par contre, le point fort du film. Même si ça ne fonctionne pas à 100%, mais c'est une idée assez intéressante. Surtout ouais, que... Alors, je vais comparer ça, entre guillemets, avec quelque chose qui n'a rien à voir. Mais... Pour moi, mettre les Arabes et les Vikings dans un même film, c'est aussi, ça fonctionne aussi bien que mettre des cow-boys et des extraterrestres, quoi. Pourquoi pas ? Dans l'absolu, rien n'empêche de mélanger ce genre de choses ensemble.
Ouais, c'est clair.
Certains trouvent ça ridicule, mais dans l'absolu, pourquoi pas ? Et voilà, je trouve que Viking et un guerrier arabe, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien.
Oui, c'est original.
Et c'est le genre de mélange qui sont intéressants de voir au cinéma, je trouve.
Bah écoute, très bien. Je pense qu'on a un peu fait le tour de la question sur ce film. Hein,
non,
Thibaut,
pas tout à fait. Pas tout
t'as
à
encore
fait,
des choses parler... à dire. Ah bah dis donc.
Bah, il faut parler d'Antonio. Il faut parler d'Antonio et d'Omar Sharif quand même. T'as Omar Sharif, c'est une icône du cinéma. Et chaque fois que je le vois dans un film, je suis heureux. C'est tout. Il y a rien d'autre à dire. Omar Sharif, il a tellement de charisme, ce gars. Bon, c'est quand même, faut le rappeler, Laurence d'Arabie, Docteur Jivago, enfin, je veux dire, des grands classiques.
Oui, bien sûr.
Et puis, bah là, le voir avec Antonio Banderas, ça fonctionne bien. Parce que, bon, tu dis, Antonio Banderas, un Espagnol qui joue un Arabe, en vrai, ça fonctionne, hein, parce que l'Espagne a quand même été très, très longtemps sous domination arabe, musulmane même. Donc, ça m'a pas gêné. Puis bon, on est dans les années 90, hein, maintenant, peut-être que... Twitter gueulerait parce qu'ils ont pris un Espagnol pour faire un Arabe. Mais ça se tient, je trouve. Ça se tient et ça fonctionne plutôt bien. Par contre, je trouve que les Vikings, bon, ils sont bien, mais c'est des comédiens qu'on connaît moins, très honnêtement. Et il n'y en a pas un spécialement qui a plus capté mon attention qu'un autre. Voilà, c'est une troupe de Vikings, un gros groupe. Et ça fonctionne pas trop mal. Mais voilà, bah, je trouve que Banderas et Omar Sharif, ça fonctionne du tonnerre, quoi. Bah, et voilà, McTiernan, c'était... de toute façon, on fait un chouette boulot tout du long, même si voilà, le film est un peu bancal. Globalement, c'est quand même pas mal, quoi.
Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour sur la question. En tout cas, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce film-là. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme note s'il sortait aujourd'hui au cinéma?
Ah.
Oui.
Ben, la petite précision aussi, il sortait aujourd'hui au cinéma, est importante. Si ça sortait aujourd'hui, je lui mettrais une étoile, je pense.
Mais pour l'époque?
Bah, deux, quand même, parce que je trouve ça mieux que... Oui, je comprends pas que... Enfin, si, je vois les faiblesses, etc., mais je comprends pas que le film soit détesté à ce point-là.
Voilà. Oui,
donc,
bon...
Il y a quand même des forces assez solides, quand même.
Je suis d'accord avec toi. Ben voilà, ceci conclut notre critique du 13e guerrier de John McTiernan avec Antonio Banderas. On se dit à très bientôt pour une prochaine critique de La Seconde Chance et puis bientôt la réouverture des salles de cinéma en juillet. À très bientôt.
Bye.